écoutez un podcast Agora Côte d'Azur.
Agora Côte d'Azur.
Oui, bonjour, vous êtes bien sur Science et Conscience, sur Agora Côte d'Azur avec François. Donc aujourd'hui, nous allons parler de Camille Flammarion, astronome et physicien, mathématicien et poète.
Agora Côte d'Azur présente
Science et Conscience.
François Conneau.
Alors nous avons eu l'occasion de nombreuses fois dans cette émission de parler du rapport ambivalent entretenu par le monde scientifique avec les défenseurs de la pensée rationnelle d'un côté et ceux d'une totale liberté de penser de l'autre. Alors aujourd'hui, il est vrai que s'afficher dans une émission sur le paranormal, pour un chercheur, pour un scientifique, ça signe tout bonnement la fin de sa carrière. Il va se griller vis-à-vis de ses collègues, vis-à-vis des médias, vis-à-vis des réseaux sociaux. Alors qu'il y a 100 ans, il faut bien comprendre que la situation était complètement différente. Un rationaliste et athée pur et dur comme Albert Einstein, par exemple, eh bien, a de nombreuses fois librement polémiqué avec ses collègues comme Erwin Schrödinger, le créateur de la mécanique quantique, au sujet de la télépathie. Le premier n'y croyait pas, le deuxième y croyait. Ou Alfred Wegener, ou Werner Heisenberg, pour d'autres grands créateurs de la théorie de l'atome et de la mécanique quantique. Eh bien, les deux étaient très férus de numérologie et de parascience. Mais donc tous ces gens-là, il y a une centaine d'années, eh bien, étaient érudits, confinés, cultivés. Et donc il savait que en son temps, eh bien par exemple, Johannes Kepler, eh bien vivait de la vente des thèmes astro, des thèmes d'astrologie, hein, dans toutes les grandes cours d'Europe. Ou encore Isaac Newton, tous les physiciens savaient qu'il était adepte de l'alchimie. Ou encore qu'un Christian Huygens, créateur de l'optique moderne, eh bien étudia longtemps l'hypothèse selon laquelle nous vivions, alors non pas sur une terre plate, mais pire, à l'intérieur d'une terre creuse. Voilà, donc les exemples ne manquent pas dans le passé de la science, et même de la science récente, de gens qui ont pris la liberté de penser tout à fait librement le monde et à leur manière. Donc, en fait, être un rationaliste à 100% pour un scientifique, ça ne fait pas forcément un bon scientifique. La seule clé de la réussite pour un scientifique, eh bien, ça reste son respect inattaquable de l'observation, c'est tout. Pour le reste, ses croyances, voire ses lubies ou ses superstitions, participent éventuellement à son équilibre personnel, voire même à sa créativité, et donc elles sont quelque part utiles à leur manière. Donc aller chercher des poux dans la tête à tel cosmologiste parce qu'il croit aux ovnis ou aux aliens, à mon avis, c'est quelque chose qui est complètement hors de propos. Il peut y croire s'il veut, il peut penser ce qu'il veut, de toute façon, du moment que ses théories sont bien construites par ailleurs au sujet de la cosmologie, eh bien ça en fait quelqu'un de tout à fait fréquentable. Or, nous avons quitté complètement ce champ de nos jours. Alors, justement, je vais prendre un exemple emblématique qui fut l'astronome Camille Flammarion, un temps élève de Le Verrier, il fut un court temps directeur de l'Observatoire de Paris, et il a été un exemple emblématique de cet état d'esprit qui prévalait encore jusqu'à à peu près un demi-siècle. Camille Flammarion était quelqu'un qui pratiquait par exemple le spiritisme. Il était chef éditorial d'une revue de spiritisme, et il est même allé jusqu'à réaliser le testament de l'une de ses lectrices et admiratrices, qui lui légua son admiratrice après sa mort, et lui a légué son épiderme pour faire la reliure de son prochain livre sur le sujet. Donc un peu macabre, mais bref. Donc par ailleurs, Camille Flammarion, pour en revenir à lui, et bien convaincu de la pluralité des mondes, il n'a pas hésité à en rajouter de son côté sur le sujet, alors qu'il n'en savait strictement rien. Alors, il a écrit de nombreux ouvrages de vulgarisation scientifique sur le sujet, que ce soit sur l'astronomie, qui était son métier, sur la météorologie, sur le climat, mais en même temps, quand il parlait d'astronomie, il n'hésitait pas à insérer qu'il n'était que de l'ordre d'une hypothèse, en fait, à son époque, hein, qu'il existait des habitants peut-être sur la Lune, peut-être sur Mars, peut-être sur Jupiter. Mais en attendant, dans son Astronomie populaire, qui a été quand même l'ouvrage d'astronomie le plus publié, le plus vendu dans la francophonie durant à peu près trois quarts de siècle, hein, entre 1870 et 1930 pratiquement, c'est un ouvrage qui a fait autorité sur le sujet, l'Astronomie populaire de Flammarion. Chaque chapitre consacré aux planètes du système solaire se trouve agrémenté de gravures, de descriptions présentant la végétation des planètes du système solaire et des habitants de chaque planète, alors toujours représentés sous les traits d'êtres humains d'ailleurs. Alors évidemment, tout cela n'est que fiction, hein. Mais l'ouvrage s'est quand même vendu à 130 000 exemplaires, ce qui pour l'époque était considérable, et donc qui a éduqué des foyers pratiquement trois quarts de siècle, hein, pratiquement trois générations. Donc Flammarion était donc maître dans l'art de mêler à la fois astronomie, mathématiques, mais aussi poésie, quand il rêvait aux habitants de Mars ou de Saturne. Mais cela ne doit pas cacher, ne doit pas choquer les tenants du rationalisme que nous sommes. Après tout, présenter des images de synthèse d'un trou noir comme on le fait aujourd'hui, où on nous montre les images du trou noir, je ne sais plus comment il s'appelle, M81, eh bien, ce ne sont pas des images de trou noir que l'on montre dans les médias, ce sont des images de synthèse qui sont reconstituées à partir d'un modèle sur la manière dont on pense que la manière dont se comporte le rayonnement aux alentours de l'astre que l'on observe. Donc ce sont des images de synthèse sur lesquelles on projette un modèle physique, mais on présente ces images de synthèse comme d'authentiques images du trou noir. Et pratiquement tous les médias l'ont fait. Et ceci, finalement, si l'attitude de Flammarion vous choque de montrer des habitants de Mars alors qu'il n'en sait rien, mais aujourd'hui, montrer les images d'un trou noir comme authentiques alors qu'en réalité, ce sont des reconstitutions et des vues de l'esprit de chercheur, c'est à peu près la même démarche. Hein. C'est la même chose. Tous les cosmologistes que vous entendez aujourd'hui disserter en abondance sur l'intérieur des trous noirs, on vous parle de singularité, d'inversion entre l'espace et le temps, de multiples dimensions dans le temps, etc. Ce sont de toute façon des théories qui sont de toute évidence incomplètes, parce que jamais la physique n'a géré une singularité dans aucun de ces modèles. Voilà. Et en plus, ce sont des théories qui ne sont corroborées par aucun début d'observation. Personne n'est jamais allé voir au voisinage ou à l'intérieur d'un trou noir pour savoir si ces dissertations sont fondées ou non. Donc en fait, tout cela ressort de l'enthousiasme, de la même emphase. Alors on ne va pas quand même dénoncer l'enthousiasme et l'emphase des chercheurs. C'est bien que des cosmologistes, c'est bien que des astronomes partagent Leur enthousiasme dans leur travail quotidien. De là à faire croire qu'ils sont certains de ce qu'ils nous racontent dans certains cas, dans des cas qui sont bien évidemment à la marge, qui sont à l'extrême. Quand on parle des trous noirs, il est évident qu'on est à la limite de ce que l'on sait dire sur ce type d'astre. Voilà. Pour tout le reste, mais bien évidemment, heureusement, l'astrophysique est une science qui a fait progresser immensément la physique en général. Et heureusement, les astrophysiciens savent nous faire rêver avec des choses dont ils sont sûrs, sur la vie des étoiles, sur la vie des planètes en particulier. Voilà, vous êtes dans l'émission Science et Conscience sur Agora Côte d'Azur. Merci de votre attention et à bientôt.